Bien, bonsoir. Bonsoir à vous qui êtes ici au Centre Sèvres et qui avez bravé le coronavirus. Bonsoir à tous nos amis qui sont en région et qui nous écoutent par la voix des ondes ou de la vidéo. Et bonsoir aux auditeurs de RCF qui suivent également ces débats. Alors, ce mardi d'éthique publique de mars est consacré, ça n'est pas vraiment une surprise, aux élections municipales à venir. Et le titre que nous avons retenu est « Élections municipales, les ressources de la démocratie locale ». En novembre 2019, un sondage du Centre d'études de la vie politique française, le CEVIPOF, dont le directeur est présent ici ce soir, indiquait que le scrutin municipal de 2020, les 15 et 22 mars prochains, enfin, si tout se passe comme prévu, risque fort de ressembler à celui de 2014, tout au moins en ce qui concerne le nombre des candidatures. Les difficultés, voire la mélancolie bien réelle, d'un certain nombre de maires sortants, en particulier dans les communes rurales, ne semble pas avoir trop découragé les bonnes volontés, même si le nombre de communes sans candidat à l'heure actuelle est loin d'être insignifiant. Tout indique pourtant que les maires restent les personnalités politiques préférées des Français. Et les débats récents, grands ou petits, ont très souvent porté sur la question des territoires et de la politique locale. À l'heure où la critique des élites parisiennes, supposées détachées du peuple, est devenue un élément central de la critique de notre démocratie concrète, qu'en est-il de la relocalisation du débat démocratique et d'une articulation différente entre centre et périphérie, ces deux termes s'entendant bien sûr avec des guillemets. Que sont aujourd'hui la place et le rôle des corps intermédiaires? Pour débattre de ces questions cruciales, à l'heure aussi bien des gilets jaunes et des discours populistes que d'un scrutin municipal classique longtemps considéré comme primordial, par exemple à la Libération en 1945, quand il s'est agi de poser la première pierre de la reconstruction d'une démocratie nouvelle, eh bien ça a été d'abord par le biais des élections municipales. Donc, pour traiter et nous éclairer sur ces questions, nous avons le grand plaisir d'accueillir Martial Foucault, qui est professeur des universités à Sciences Po, directeur du Centre d'études de la vie politique française, spécialiste des questions de comportement politique et électoral. Il est en particulier l'auteur de « Maire au bord de la crise de nerfs » aux éditions de l'Aube, tout récemment, en janvier dernier. Et Monsieur Jean-Robert Massimi, directeur général du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Alors peut-être pourrez-vous nous dire un mot pour que nous sachions de quoi il s'agit exactement, et qui est professeur associé à l'université Paris 4, Sorbonne, et c'est Monsieur Massimi qui prend le premier la parole.
Bonsoir mesdames, messieurs. Oui, je voudrais présenter rapidement le Conseil supérieur, parce qu'il est moins connu que Sciences Po, c'est évident. Le Conseil supérieur est situé au ministère de l'Intérieur, et il a pour rôle essentiellement d'organiser le dialogue social entre les syndicats de la fonction publique territoriale et les employeurs, et entre eux, et aussi avec le gouvernement. Donc c'est un peu, un genou entre le local et le national. Et ce Conseil supérieur, en plus, une fonction d'études préalables pour les lois, etc. On passe au crible actuellement la loi retraite pour la fonction publique. Et autant vous dire que c'est pas un grand plaisir. Enfin, ça dépend si on est pervers ou non. Je voudrais d'abord, effectivement, sur ce sujet de la démocratie locale, faire un bref historique, parce que la démocratie locale, c'est une chose ancienne, mais ça a été réactivé, si je puis dire, il y a une quarantaine d'années, 38 ans exactement, puisque c'est une loi du 2 mars 82, donc il suffit d'un jour pour la célébrer, et qui est la loi dite de décentralisation, et qui a fondé un nouveau rapport entre l'État et les collectivités et qui est honnêtement une des lois fondatrices pour les collectivités locales. Alors, les communes, les départements et les régions, on parlera peut-être plus des communes, mais c'est important de lier les trois parce qu'elles font désormais système. C'est-à-dire que la décentralisation s'en les englobe tous les trois, toutes les trois, et j'allais dire, elles sont complémentaires. Quelle était l'intention première de la décentralisation? Parce qu'on l'a oublié, hein, sauf ceux qui s'intéressent à ça. Et le mot de décentralisation n'apparaît pas dans la loi, c'est uniquement les libertés locales. Hein. Et si vous écoutez le discours de Pierre Mauroy, Premier ministre, il parle de libération. Hein, c'est un mot très fort. Et l'objectif de cette loi était, objectif donc démocratique, strictement politique, de rapprocher le décideur du citoyen et de rendre ce décideur responsable devant les citoyens. Alors, maintenant, c'est à peu près banal. Mais à l'époque, la plupart des décisions locales, communales ou départementales, puisque les régions n'existaient pas, étaient nouveaux, puisque il y avait ce qu'on appelle le contrôle du préfet, la tutelle du préfet, et que donc cette décentralisation a consisté à libérer, et le mot est très courant à l'époque, à libérer les collectivités de l'emprise de l'État. C'est-à-dire que elles étaient en quelque sorte adultes pour tel projet, telle dépense. Elles n'avaient plus besoin de demander l'avis de l'État. Alors, évidemment, maintenant, ça paraît banal, mais à l'époque, c'était tous les maires aller voir la tutelle pour demander « Est-ce que je peux monter cette piscine ?» etc., etc. Maintenant, depuis 40 ans, ça se passe librement et le préfet intervient a posteriori, c'est-à-dire qu'il juge en légalité, voir si le projet, évidemment, est légal. Donc, on retient deux choses de cette décentralisation. Outre les aspects très techniques que je vous passe, plus de proximité et plus de démocratie locale. Mais, si vous voulez, les choses ont beaucoup évolué et je vais essayer de montrer rapidement qu'on est passé d'une décentralisation à objectif démocratique et politique, ce que je vous ai dit Pierre Mauroy, à une répartition purement gestionnaire, technique, pour ne pas dire budgétaire, ce qui a pour conséquence, en partie, une technocratisation qui nuit à l'esprit démocratique de la décentralisation, et les élus eux-mêmes, je pense qu'on en parlera, se sentent mal dans ce nouveau système, parce que, j'allais dire, ils se sentent non plus sous la tutelle de l'État, mais sous la tutelle d'autres institutions dont on parlera, notamment l'intercommunalité. C'est-à-dire que la décentralisation a consisté souvent à exporter le modèle central de l'État dans les collectivités locales. Mais c'est pas, j'allais dire, la libération politique que beaucoup espéraient et que qui était dans l'intention même du gouvernement. Alors, quel est l'état de cette démocratie locale, de cette organisation locale en 2020, parce que je ne vais pas faire toute l'histoire. Ce qu'on voit et qui est, je crois, très important, c'est que la décentralisation est un processus continu depuis 82 et irréversible. Elle a souvent été critiquée, tel parti d'opposition critiquait les options de la décentralisation du parti au pouvoir, mais en gros, jamais contesté dans son essence. Hein, la décentralisation est un phénomène qui s'est installé dans le paysage français, même s'il a été critiqué pour des raisons politiques. On a parlé de république féodale. Pour des raisons financières, les collectivités coûtent très cher, et pour des raisons, j'allais dire, humaines, pour le clientélisme, etc., etc. Mais, indépendamment de ça, la décentralisation perdure. Alors, premièrement, c'est un processus irréversible qui est entré dans les mœurs, mais très vite, très vite, il a rencontré des limites et des difficultés, et donc très vite, quelques années après, il y a eu à ce processus de décentralisation des inflexions très importantes, notamment avec le système de l'intercommunalité, hein, qui est loi Chevènement de 1999, et la loi Chevènement, comment dirais-je, réorganise le local, non pas dans une logique de décentralisation, puisque c'était acquis, mais dans une logique de reconcentration locale. Et en fait, les communes se sont trouvées souvent enserrées dans des systèmes de plus en plus massifs et de plus en plus technocratiques, de fait. Je ne parle pas des métropoles ou des grandes communautés urbaines, qui sont des systèmes où, certes, la grande ville domine toujours, mais les petites communes ont perdu parfois leur pouvoir politique, mais surtout leur budget. Donc, j'allais dire, entre la vision du citoyen qui connaît son maire parce qu'il l'a élu et la réalité des moyens de ce maire, il y a une grande différence, puisque le maire n'est qu'un 30e, un 40e, un 100e de la structure, de la gouvernance de l'intercommunalité. Donc ça, j'allais dire, depuis 82, c'est l'inflexion, et plus que l'inflexion d'ailleurs, essentielle de l'histoire du monde local. Et évidemment, ça renvoie à notre sujet de ce soir. Est-ce que c'est encore démocratique, puisque vous élisez un maire, et ce maire élit au deuxième degré, et donc pratiquement au troisième degré, une structure intercommunale que vous n'avez pas élue, et donc, j'allais dire, tout le système se perd dans une administration, finalement. Fût-elle locale, c'est une administration technocratique. Donc, depuis 99, et j'allais dire, il y a eu la loi Chevènement, il y a eu la loi Hortefeux, etc., je vous passe sur les textes, mais à chaque fois, c'est la même logique de reconcentration de, j'allais dire, technocratisation, on pourra en parler, du système local. D'autre part, évidemment, la décentralisation, j'allais dire, a joué sur l'État. Et l'État, j'allais dire, a lui-même, ayant perdu des compétences, puisqu'elles sont données aux collectivités locales, a, j'allais dire, territorialiser ces politiques publiques, et donc parfois il y a une certaine concurrence entre l'État et les collectivités, et c'est ce qu'on appelle la territorialisation des politiques publiques, qui est une manière de contractualiser entre l'État et les collectivités, ce qui ne simplifie pas toujours le problème. D'autre part, dernier élément de bilan, qui pourrait être beaucoup plus long, évidemment, l'emploi territorial a pris une grande place. Un chiffre, 800 000 agents locaux en 1982, 1 900 000 maintenant. Donc, expansion. Alors, évidemment, dans cette expansion, Il y a eu des transferts de fonctionnaires de l'État vers les collectivités, mais il y a eu aussi des créations d'emplois. Donc, on peut dire, et certains ne s'en privent pas, que la décentralisation a été inflationniste en matière de personnel. On aura l'occasion d'en parler. Et quelques constats qui résultent de cette histoire brossée à très grands traits, je m'en excuse. Premièrement, est apparue une notion dont le flou est étonnant et la généralité permanente, la notion de territoire. Quand on entend certains élus, ils disent nos territoires, et j'allais dire c'est flou. Territoire, c'est pas une institution, c'est pas une collectivité, c'est pas nos territoires. Il suffit d'entendre, et c'est pas une critique, mais le président du Sénat qui dit nos territoires, on sait pas de quoi il parle, c'est tout sauf Paris. C'est déjà clair, et c'est surtout au pluriel. Dans les années 60, on a créé la DATAR, l'aménagement du territoire. Donc on savait que c'était la totalité du territoire national, la France. Maintenant, on est sur les territoires et on ne sait pas si ça recouvre les collectivités, si ça recouvre l'espace rural, etc. Et c'est un vrai problème parce que finalement, le citoyen, certes, anthropologiquement, il peut être relié, se reconnaître dans un territoire, mais quand même, il a besoin d'un lien politique. Or, justement, cette notion de territoire correspond finalement au flou de l'identification politique qu'avait voulu créer la décentralisation. Enfin, dernier point dans ce portrait rapide, évidemment, les collectivités sont de plus en plus responsables d'énormément de politiques. Pour le coup, tout l'aménagement du territoire, c'est elle, des transports, une partie de la santé, les conseils départementaux. Les communes font énormément de choses puisqu'elles ont la liberté pour ça. Et les collectivités sont de gros investisseurs publics. Et si vous enlevez la défense nationale, où l'État intervient évidemment beaucoup, le premier investisseur public, ce sont les collectivités. Pas seulement les communes, départements et régions, mais toutes les politiques de la société, de la proximité, sont désormais aux mains des collectivités, même si évidemment le législateur est à la base des choix politiques, mais les collectivités ont une certaine marge de manœuvre. Et moi, je pense, je ne sais pas ce que on en dira dans le débat, mais que les collectivités ne sont pas connues à la hauteur de leurs investissements et de leur poids. Voyez, quand on parle des crèches en France, on dit « Ah ben, il faudrait que le ministère de la Santé se bouge », alors que le ministère de la Santé n'a aucune espèce de poids. Dans les années 80, enfin, avant la décentralisation, il y avait un directeur des crèches au ministère des Affaires sociales. Maintenant, évidemment, chaque commune, chaque association peut organiser sa crèche, etc., etc. Donc, c'est vous dire que la décentralisation, c'est massif financièrement et, en politique concrète. Ce monde local, donc, est sous-estimé, finalement, eu égard à son poids social, sanitaire, en matière de transport, d'investissement, d'infrastructure, etc. On a plus, le citoyen classique a plus de rapport avec les collectivités qu'avec l'État. Hormis l'éducation nationale ou évidemment la police ou autre, l'État n'intervient plus dans les territoires. C'est les collectivités qui le font. Or ça, j'allais dire, le français moyen, si tant est qu'elle existe, n'est pas très au courant des diverses nuances, etc. Donc, pour s'adapter à ce poids nouveau des investissements, il fallait sortir de la logique exclusivement communale. Et là, on a un problème très important qui touche la décentralisation, c'est que 36 000 communes, c'est 1000 communes qui ont les moyens de leur action. Bon, 5000, on va dire. Mais les autres, les 30 000 communes, ont très peu de budget, très peu de moyens. Et donc, c'est ce qui a motivé, en 99, la loi Chevènement, prônant une coopération intercommunale. Alors, en France, évidemment, pour des raisons historiques, culturelles et de clocher, on n'a pas choisi la voie que d'autres pays ont choisie, comme l'Allemagne ou la Belgique, de regroupement communal, de fusion, qui aurait permis de faire passer la France de 36 000 communes à 5 ou 6 000. Et donc on a choisi, pour ne pas aller jusqu'au bout de la, d'une reconcentration, on a choisi la coopération. Et évidemment, cette coopération a consisté à ajouter une couche, le fameux millefeuille territorial dont on a parlé il y a 2-3 ans, a consisté à rajouter une couche. Et c'est ce qui fait que, entre la logique démocratique, l'électeur qui élit le conseil municipal, etc., et la réalité des choix politiques, c'est très différent, puisque le maire n'est qu'un parmi X dans la structure intercommunale, dans la gouvernance intercommunale. Et là, j'allais dire, on pourrait dater cette loi Chevènement, même si elle a une histoire mouvementée, cet écart croissant entre une logique démocratique que choisissent les élus et la réalité de l'investissement technique et financier. Ce ne sont plus les collectivités, les communes elles seules qui peuvent, investir ou créer des équipements, etc., etc. Donc il y a une rationalité économique, de fusion, qui est évidente financièrement, qui est évidente économiquement, mais qui n'est pas forcément évidente démocratiquement. Et je pense que cette divergence croissante entre la logique démocratique locale, rapprochée du décideur du citoyen, et la logique rationalité économique, il y a une divergence croissante, et je pense que les élus, on parlait du malaise des élus tout à l'heure, vient aussi de ça, parce que on sait désormais que beaucoup d'élus ne comptent pas se représenter, que beaucoup de communes n'auront pas forcément de candidats, etc., etc. C'est parce qu'effectivement, les maires ou les élus ne savent plus très bien quel est leur rôle. Et au fond, on s'est consolé en disant ce sont des intermédiaires, des médiateurs, mais on fait pas de politique locale pour être seulement une assistante sociale. Donc il faut pouvoir porter un projet politique que beaucoup d'élus ne portent plus, faute de moyens d'une part, et faute de pouvoir d'autre part. Donc ça se passe ailleurs et autrement. Donc on pourrait dire que depuis 15 ans, on assiste à une technocratisation du monde local qui, évidemment, est l'inverse de ce que les législateurs à l'origine, Pierre Mauroy et Gaston Defer notamment, avaient pensé. Et d'autre part, le bilan du quinquennat précédent, qui a été très riche en matière de lois sur les collectivités, il y a trois ou quatre lois importantes sur les collectivités, notamment le regroupement des régions, notamment la création des métropoles. Enfin, le quinquennat Hollande est un des plus riches en matière de politique locale. Et justement, ce n'est pas un quinquennat de décentralisation, c'est un quinquennat de recentralisation locale. Et j'allais dire, c'est là que les élus ont perdu une partie de leur pouvoir, y compris en région parisienne, avec les métropoles, la métropole du Grand Paris, dont personne, ni les élus, ni les fonctionnaires, ni les citoyens ne savent comment ça fonctionne. Ça fonctionne, mais c'est un miracle permanent parce que c'est un système illisible. La métropole de Paris, et quand Macron est arrivé, il a promis de changer ce système, mais pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Ça sera peut-être à l'ordre du jour de la loi 3D, décentralisation, déconcentration et démocratisation, je crois. Ah oui, j'y arrive d'ailleurs. Alors, pour la conclusion, quel avenir pour la démocratie locale dans ce paysage que je vous ai montré, pas forcément très démocratique? Alors, premièrement, il y a un point important, c'est que les collectivités, pour des raisons historiques, sociologiques et politiques, sont très attachées à l'infra-local, c'est-à-dire à la démocratie infralocale, participative, etc. J'allais dire, la démocratie locale a son avenir dans l'infralocal, et notamment sur les questions quotidiennes, sur les questions d'écologie ou autres, la démocratie locale est plus que vivante, y compris dans les grandes villes, les conseils de quartier, enfin, toute une série d'outils importants. Alors, dans ce cas, le modèle de 82 est-il toujours opérationnel? J'allais dire oui, mais à condition, et c'est une condition très importante, et que le climat actuel ne satisfait pas, que vraiment il y ait un investissement politique des élus locaux et de l'État pour favoriser cette démocratie locale. Évidemment, il y a beaucoup de sujets qui auraient intérêt à être assumés pleinement par les collectivités locales, parce qu'on sait très bien que l'État ne peut plus seul les assurer pleinement. L'écologie, on l'a vu sur beaucoup de projets, c'est les collectivités qui sont pionnières, même si elles arrivent, j'allais dire, en ordre dispersé. Donc il faut toujours se partager entre l'égalité d'accès aux citoyens, d'accès pour les citoyens aux services publics, et l'expérimentation, qui est un mot d'ailleurs très très à la mode dans les collectivités. Voilà, je m'arrête là.
Merci Monsieur Massini d'avoir redressé ce panorama historique, cet arrière-plan, mais tout à fait essentiel pour comprendre ce double mouvement finalement de décentralisation et de reconcentration ensuite, et cette dérive technocratique finalement, et puis en fin de compte d'avoir conclu sur les chances, les capacités, les ressources de l'infralocal qui montre que la démocratie locale est peut-être encore vivante, qui était bien l'objet de notre soirée d'éthique publique donc portant sur les élections municipales, avec cette visée de découvrir les ressources de la démocratie locale. Donc après cette première intervention de Jean-Robert Massini, je laisse la parole au deuxième intervenant de la soirée.
Merci, bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Tout d'abord, je souhaiterais vous remercier, Jean-Luc Poutier, François Huvet, pour m'inviter. C'est la première fois que je me rends au Centre Sèvres, et le sujet que vous m'avez proposé, au-delà d'une activité de publication, renvoie à un domaine de recherche qui est le mien depuis maintenant une quinzaine d'années. Alors, l'objet de la conférence porte sur les ressources de la démocratie locale. Et après l'exposé de Monsieur Massimi sur l'histoire récente du cadre à la fois politique mais aussi juridique dans lequel s'insèrent aujourd'hui les relations nationales, les relations municipales, j'aimerais, et pourtant juste avant l'introduction, j'avais indiqué que je ne ferais pas forcément de retour historique, laissant le soin à Monsieur Massimi de le faire, mais je vais quand même repartir 2 siècles plus tôt pour comprendre aujourd'hui comment la notion de démocratie locale, qui pour moi diffère de celle de démocratie municipale, aujourd'hui est en tension, non pas parce que le local serait à repenser, mais plutôt le terme de démocratie est probablement aujourd'hui torturé par, non pas l'air du temps, mais par les aspirations des citoyens. Et c'est dans ce cadre-là que je vais revenir sur, au-delà de l'état d'esprit des maires, c'est au fond, et ça a été dit tout à l'heure, quel est le rôle, comment les maires se représentent un rôle dans ce chamboulement des relations démocratiques en France. Alors je dis 2 siècles plus tard parce que la démocratie locale, c'est à la fois une très vieille notion, mais ça n'a pas été simple. Et on voit que sur un temps très très long, pour moi il y a 2 moments importants qui installent la démocratie locale. Le premier temps, alors tout d'abord je fais un aparté parce que souvent on me pose la question, mais d'où vient l'origine du mot « maire » ? Et c'est un mot qui est très ancien, et d'ailleurs même les historiens, il n'y a pas consensus au sein des historiens sur l'origine historique de ce terme. Je dois dire que il y a malgré tout, on va dire, une forme de consensus. Vous voyez, les périodes sont très longues, mais à partir du XIIe siècle, on peut considérer que pour la première fois, le terme non pas de maire, mais le terme de juré, le terme de pair, échevin, apparaît pour désigner les élus en charge des ce qu'on appelait à l'époque des communes jurées. Et le maire va s'installer progressivement dans les villages du Moyen-Âge. Il suffit de relire les travaux de Georges Duby pour voir le terme de maire apparaître. De cette date, Moyen-Âge, jusqu'en 1789, il ne se passe strictement rien sur l'appellation et sur les rôles ou les fonctions assumées par ces maires. En 1789, c'est pour moi le premier point important pour comprendre l'émergence de cette figure politique qui va progressivement s'installer dans chacune des communes. Pourquoi 1789 ? Parce que en décembre, le 14 décembre précisément 1789, c'est la première loi qui va porter création des communautés d'habitants. On ne parle pas de municipalité, on ne parle pas de commune, mais on emploie le terme dans la loi de communauté d'habitants. Ces communautés d'habitants, c'est très intéressant parce que elles vont à la fois organiser un nouveau territoire, près de 44 000 communautés d'habitants, tout autant que le nombre de paroisses, et ces communautés d'habitants vont être organisées politiquement par la désignation d'un maire, mais élection des conseillers municipaux. Donc on a une forme assez originale à l'époque de la gouvernance de ces territoires. J'ose plus employer le terme de territoire au plan générique, puisque on vient de l'évoquer, mais j'y reviendrai plus tard. La particularité, puisqu'on parle de démocratie locale, c'est qu'en 1789, les électeurs, le collège électoral plus précisément, en charge d'élire les conseillers municipaux, c'est un collège électoral très particulier qui dépend finalement de la richesse de chacun des habitants. C'est le régime du vote censitaire. Et donc il ne faut attendre qu'un siècle plus tard, 1884, pour voir une deuxième transformation importante dans l'émergence de cette figure du maire. Je passe tous les éléments qui sont intéressants et je ne veux pas faire trop d'autopromotion, mais je reviens sur ces éléments historiques au cours du 19e siècle qui verront quelques évolutions. Tantôt le maire est désigné par le préfet, tantôt il était directement désigné par Bonaparte. Mais en 1884, étape importante, puisque sous la Troisième République, je dirais que c'est vraiment la consécration de la démocratie locale. Pourquoi ? Parce que, tout d'abord, les maires vont désormais être élus au suffrage universel masculin. Près de 38 000 maires seront élus pour la première fois par un collège électoral d'environ 10 millions de Français, les 4 et 11 mai 1884. Donc ça, ce sont les premières élections municipales au suffrage universel. Et d'ailleurs, à cette occasion, les républicains l'emporteront largement devant les radicaux. Un siècle plus tard, 1984-1982. Alors là, je ne vais pas redire ce qui a été brillamment évoqué tout à l'heure, mais vous voyez, c'est une histoire assez longue. Et je dirais que si on devait croire à une forme de rythme programmé, rendez-vous autour des années 2080 pour voir un prochain changement significatif. D'accord ? Alors, 1982, c'est un changement, cette fois-ci, dans l'organisation administrative et, je dirais, politique, mais très peu sur le plan démocratique. Très peu sur le plan démocratique. Pourquoi ? Parce que, au fond, les maires, bien sûr, ont bénéficié d'un transfert de compétences importantes en 1982, mais sur le plan, de la représentation que se sont fait les Français et les Françaises en 1982, il y avait très très peu de changements par rapport à l'incarnation des maires aux élections précédentes. Alors, une fois que l'on a situé sur un temps très très long cette histoire de l'émergence de la figure du maire, je dirais que pour moi il y a deux points, avant d'aborder une deuxième partie, mais il y a deux points qui me semblent importants de souligner au regard du terme de démocratie locale à ce stade. Bon, tout d'abord, on est frappé, et là je vais tenir un propos dans un premier temps sur les grandes villes de France. Je les situerai les villes de plus de 30 000 habitants où on peut considérer que le pouvoir du maire est réel aujourd'hui. Ce qui me frappe quand on regarde attentivement les évolutions politiques dans ces villes, c'est, et alors que l'on va être soumis au même traitement dans quelques jours lors des soirées électorales, nous allons entendre l'emploi de termes comme basculement, la perte d'un fief, comme si, au fond, la France basculait totalement au sein des équilibres municipaux. En réalité, la France des villes de plus de 30 000 habitants est profondément stable depuis plus de 40 ans. Quand je dis profondément stable, ça veut dire qu'on a très très peu de villes qui... finalement, bascule à droite, à gauche, au centre-droite, au centre-gauche, au centre. Plus à gauche et plus à droite. Et cette stabilité, elle n'est jamais véritablement, mise en perspective. Alors, pourquoi ? Parce que tout d'abord, il y a un traitement médiatique. Imaginons une soirée électorale où il n'y ait aucun changement. J'imagine mal comment ces soirées électorales pourraient perdurer et comment les entreprises médiatiques pourraient les maintenir. Mais plus sérieusement, cette stabilité, elle renvoie, de mon point de vue, à deux logiques. La première, c'est une logique que je vais caractériser logique géographique. Et puis, deuxièmement, une logique en termes d'action publique. Logique géographique, il faut bien voir qu'il y a, et là d'autres géographes l'ont démontré, il faut bien voir que les équilibres démographiques et sociodémographiques sont pleinement ancrés dans des histoires géographiques de ces territoires. Et donc oui, bien sûr, nous avons, avec certains collègues, pu observer que c'est à peine 10% de ces villes qui, au cours des 40 dernières années, ont basculé régulièrement à chaque scrutin municipal. Donc ça veut dire que, et ce sont ces 10% qui sont en général mis en évidence, qui font l'actualité. On va très très peu parler de ces villes qui depuis, même certaines, je reviens de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand qui est à gauche depuis la Seconde Guerre mondiale. Et d'autres comme cela à droite, si on prend un certain nombre de villes du sud de la France ou de l'ouest. Alors, moi, ce qui m'intéresse sur la deuxième logique, cette fois-ci plus politique en termes d'action publique, et ça va rejoindre un peu le propos qui a été tenu par Monsieur Massimi, c'est-à-dire que, au fond, depuis 40 ans, ce que j'observe dans ces grandes villes, je vais aborder la question rurale tout à l'heure, mais sur ces grandes villes, on assiste à une forme, je ne sais pas si le terme est approprié, mais à une forme de standardisation des politiques municipales. Vous évoquiez tout à l'heure le cas des politiques vis-à-vis de la petite enfance et des crèches. Moi, je suis frappé d'observer que, disons que au début des années 2000, fin des années 90, début des années 2000, on a une standardisation des politiques locales. Chaque maire veut piétonniser son centre-ville. Chaque maire veut des services publics de qualité. Chaque maire souhaite avoir des éléments de sécurité ou d'amélioration du cadre urbain. Il y a très très peu de différence que l'on pourrait comprendre simplement par l'ancrage partisan, droite-gauche. D'accord. Mais il y a quand même une différence. Il y a une politique, de mon point de vue, qui aujourd'hui est un domaine de compétence de ces maires de grandes villes, qui discrimine profondément les maires de gauche et les maires de droite, c'est la politique du logement. Le logement est un trait, et je vais même être cynique, c'est une politique qui permet de façonner des électorats. D'accord ? Il suffit de regarder un certain nombre de villes, je me suis beaucoup intéressé au Grand Quévilly, qui a la particularité d'être une de ces villes, alors maintenant c'est en dessous de 30 000 habitants, mais une de ces villes qui avait jusqu'en 2008 72% de ses résidents dans le logement HLM. 72%. Et si je prends un cas extrême opposé, une ville comme Le Cannet ou Antibes, on est non pas à 72%, mais plutôt autour de 8%. Et on a une grande variété de cas en France où ces politiques du logement permettent, il suffit juste de penser la notion du communisme municipal dans la première couronne parisienne pour voir combien le logement a été un levier, un instrument d'action publique puissant pour maintenir une stabilité communiste. Alors aujourd'hui, ces éléments de politique publique, moi j'ai essayé à travers l'enquête conduite au CEVIPOF de réinterroger les maires en deux temps. Alors à la fois je les ai interrogés il y a un an et demi, puis il y a 6 mois, et je vais de nouveau les réinterroger dans un an, une fois qu'on aura connaissance des résultats électoraux. Quand je dis stabilité, c'est vrai que, et à mon corps défendant, on a peut-être contribué à alimenter une forme d'agitation ou d'emballement médiatique autour du chiffre qui est sorti de cette enquête, où nous indiquions qu'un maire sur deux, il y a un an et demi, n'était pas certain de se représenter. Alors, ça a été à la fois de l'étonnement, et puis un certain nombre de responsables politiques ont adressé un certain nombre de critiques, considérant que j'alimentais des peurs auprès des élus locaux. Bon, la réalité, elle est quand même différente, puisque là aussi, une très forte stabilité depuis près de 40 ans. À chaque élection municipale, ce ne sont que 40% de maires qui sont nouvellement installés. Alors, on pourrait dire sur le terrain de la démocratie, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on a un renouvellement de ces responsables, de ces premiers magistrats. Alors, il faut être prudent parce que le terme 40%, il est parfois utilisé avec abus. 40% ne veut pas dire 40% de nouveaux maires. 40% veut dire, pour un tiers, des maires sortants qui ont été battus, et pour les deux tiers restants, toujours de ces 40%, effectivement, de nouveaux candidats dans ces communes. Et je pense, après avoir découvert hier soir les listes publiées par le ministère de l'Intérieur, on a commencé à travailler avec mes équipes, et on est sensiblement sur le même étiage. On aura le même niveau, c'est-à-dire 40% probablement de renouvellement, et puis 60% de maires sortants qui vont être réélus. Alors, ça nous interroge. Est-ce que c'est un signe qu'il faut prendre en compte pour apprécier la qualité de la démocratie locale, ou bien est-ce qu'il faut regarder les choses autrement? J'aurais tendance à dire que les deux sont compatibles et qu'il faut les regarder simultanément. Ce qu'il faut regarder simultanément, c'est à la fois, et c'est ce que j'essaye de faire dans cet ouvrage, un profil, une évolution récente des maires, récente depuis 40 ans. Il y a un élément, moi, qui m'a frappé et qui correspond aussi à l'évolution de nos territoires. En 1977, 40% des maires étaient agriculteurs. 40% des maires étaient agriculteurs. 40 ans plus tard, ils ne sont plus que 13% des maires aujourd'hui à être agriculteurs. Et simultanément, vous aviez à peine 10% de professions libérales, professions intellectuelles supérieures, 10% de ces personnes occupant les fonctions de maire il y a 40 ans, aujourd'hui, elles sont 40%. Donc, on a un véritablement... Elles sont 20%. Les 40% sont des retraités. D'accord ? Donc ça, c'est une évolution profonde qui correspond aussi à un vieillissement des maires. L'âge moyen des maires aujourd'hui en France se situe autour de 63 ans. Et cette montée en puissance des maires retraités... Enfin, traduit pour moi on doit en tirer deux enseignements. Le premier, et c'est ce que je retrouve dans l'enquête, la notion de maire bénévole, c'est pas simplement un concept, c'est un véritable sujet. Même si on est maire d'une petite commune de moins de 500 habitants, être maire, c'est un travail, alors il faut pas exagérer, ce n'est pas un travail de 80 heures par semaine, mais c'est un travail à temps plein. Un temps plein qui devient extrêmement chronophage quand on est dans une situation que vous avez décrite, c'est-à-dire celle d'une insuffisance de moyens humains et insuffisance de moyens financiers. Ça, c'est le principal marqueur, le principal ressort du souhait d'abandon des maires, ce manque de moyens. Il y a un deuxième élément pour mieux comprendre aussi cette évolution de la fonction de maire. Et d'ailleurs, j'ai été très surpris dans notre enquête. On a presque un tiers des maires qui nous répondent. On leur posait une question. Selon vous, avez-vous le sentiment d'exercer une fonction ou un métier? Et j'étais très attaché à cette question parce qu'elle renvoyait un cadrage théorique, un concept cher à un sociologue allemand, Max Weber, qui avait déployé un argumentaire autour de cette distinction entre vivre de la politique ou vivre pour la politique. Et c'est intéressant parce que souvent, on dit aujourd'hui les tensions sur le modèle démocratique, ces tensions sont liées à une montée de la professionnalisation des élus. Donc, pour Max Weber, quand il tente de décrire les responsables politiques comme vivant de la politique, cela traduit l'idée qu'on a bien une professionnalisation et donc il faut reconnaître l'idée même d'exercer un métier et non pas une fonction. Et alors ce qui me surprend le plus, alors là ce sont les limites de ce type d'enquête déclarative, parce que les maires des grandes villes maîtrisent ces codes. S'ils répondent qu'ils exercent un métier, ils savent bien qu'on risque de leur tirer les oreilles, en tout cas au moins dans leurs associations d'élus. Donc, maîtrisant ces codes, on a beaucoup de mal à tirer des enseignements très riches. Mais mettons de côté ces maires des grandes villes. Moi, je suis frappé de voir que l'essentiel des maires qui nous ont répondu avoir le sentiment d'exercer un métier, ce sont les maires des communes de moins de 1000 habitants. Et pour moi, ça révèle quelque chose qui est, me semble-t-il, nouveau aujourd'hui pour le bon fonctionnement, la bonne qualité d'une démocratie locale. C'est que ces mêmes maires, l'expression est malheureuse, mais ces maires ne demandent pas une augmentation des indemnités, par exemple, de maire. Ce n'est pas le premier souhait d'évolution. Un petit nombre, mais ce n'est vraiment pas une majorité. Donc ces maires qui ne demandent pas d'augmentation des indemnités considèrent exercer un métier, mais en revanche, ce qui les aujourd'hui les traverse le plus pour les encourager à abandonner, c'est deux situations qui me semblent nouvelles. Tout d'abord, je dirais une relation très abîmée à l'État. Relation abîmée à l'État, cela veut dire que c'est pas simplement l'État, cet État central qui parfois peut paraître invisible. Pour un maire, l'État central, c'est l'État des services déconcentrés de l'État. C'est-à-dire ses relations avec le préfet, les services préfectoraux, parfois les sous-préfectures. Alors, dans certains départements, elles tendent à disparaître en termes de capacité de fonctionnement. Donc ici, il y a un véritable hiatus qui s'est construit entre les maires de ces petites communes et les services déconcentrés de l'État. Mais quand je dis relation abîmée à l'État, c'est aussi relation abîmée à la parole publique de l'exécutif. Et je dois dire que le mandat qui s'achève pour les maires 2014-2020 est probablement le mandat le plus difficile auquel les maires ont été confrontés. Difficile parce que c'est une suite, je dirais, de près de maintenant 10 ans des effets de la crise économique de 2008 qui a conduit à cette raréfaction des dotations budgétaires. On a demandé un effort considérable aux collectivités territoriales et on n'a pas terminé, je dirais, ce mouvement. Il y a un deuxième moment très important qui a rendu ce mandat très compliqué, il ne faut quand même pas l'oublier, c'est la séquence des attentats. Beaucoup de maires ont découvert des situations dans lesquelles ils n'étaient pas prêts à intervenir, répondre aux injonctions de l'État central. Et je dois dire que si la situation n'a pas empiré sur d'autres territoires, beaucoup de maires étaient quand même très inquiets à la fin de l'année 2015. Et puis troisième moment très délicat, et vous l'avez rappelé, c'est quand même un précédent quinquennat qui a été couronné de transformations territoriales importantes, dont l'une, cette fameuse loi NOTRe, une loi qui réorganise le territoire autour des intercommunalités, obligeant chacune des communes à intégrer, au plus tard le 1er janvier 2017, me semble-t-il, des structures intercommunales. Et quand on parle de démocratie locale, là je vous rejoins, pour moi, les 15 et 22 mars prochains, nous avons au moins, je dirais, 5 tours d'élection. Nous allons tous voter le premier et deuxième tour, si l'épidémie du coronavirus ne nous l'empêche pas. Puis il y aura un troisième tour, qui est l'élection du maire par les conseillers municipaux élus. Il ne faut jamais oublier ce point, même s'il est rare d'avoir une tête de liste qui n'est pas élue par l'ensemble des colistiers. Mais aussi un quatrième tour qui est celui de l'élection du président de l'intercommunalité. Et vous parliez tout à l'heure du Grand Paris. Je crois que si l'on faisait rapidement et maintenant un sondage pour savoir qui est le président du Grand Paris, je ne serais pas surpris que nous soyons nombreux à ne pas mettre ni un nom, ni une histoire, je vais vous donner le nom, mais une histoire sur l'actuel président du Grand Paris. Et on a pu le constater dans notre enquête, c'est à peu près 70% des Français qui connaissent le nom de leur maire. Je trouve que c'est rassurant. C'est à peine 20% qui connaissent le président de l'intercommunalité dans laquelle ils vivent. Patrick Ollier, président du Grand Paris. Je dirais, est-ce que l'on a souvenir, c'est ne serait-ce que ce dernier semestre, ces 6 derniers mois, de grandes déclarations du président du Grand Paris. Sauf si on suit attentivement les dossiers, vous me répondrez oui. Mais vous voyez, on a aujourd'hui à la tête de structures intercommunales, c'est-à-dire 1250 structures intercommunales en France, qu'on appelle dans le jargon des EPCI, parce qu'ils ont la capacité de lever un impôt, ces 1250 présidents d'intercommunalité sont quasiment invisibles dans le débat public. Et pour autant, et c'est là où pour moi ça pose une vraie question qu'on doit formuler en ces termes, est-ce que véritablement, aujourd'hui, les structures intercommunales sont démocratiques? Est-ce qu'elles ont une légitimité démocratique lorsqu'elles sont élues au suffrage indirect? Je dirais que le problème est d'autant plus sévère qu'aujourd'hui, l'essentiel des compétences exercées par ces structures intercommunales n'ont jamais été aussi importantes. Et récemment, il y a un débat aujourd'hui sur les questions d'eau et d'assainissement, mais beaucoup de maires sont, mobilisés contre ce transfert de compétences. Pourquoi? Tout simplement, c'est ce que disait l'historien Pierre Rosin-Ballon, ça pose une question de la responsabilité politique. Un administré qui est insatisfait de son système de d'accès à l'eau ou de qualité de l'eau, en général, l'interlocuteur qu'il va saisir, c'est le maire. Et je crois que ça va durer encore des années et des années, malgré ce transfert en cours auprès de l'intercommunalité. La question de la responsabilité politique, c'est de trouver, puisqu'on a parlé de loi de décentralisation, c'est de trouver, la droite horizontale qui permet d'associer, d'attribuer une responsabilité politique à des compétences exercées. Or, on est en train de créer un décalage où vous avez finalement une élection d'un maire sur des compétences dont il ne dispose plus aujourd'hui. Et pour moi, ça rompt totalement le lien de responsabilité politique et donc de bon fonctionnement d'une démocratie. Au fond, c'est comme si on demandait au président de la République d'être responsable de l'ensemble des trous dans la chaussée un peu partout en France. Bon, il y a un décalage. On a transféré des compétences pour se rapprocher le plus près des besoins locaux des citoyens. Je surveille le temps. 3 minutes. Donc, dans ce malaise aujourd'hui des maires et dans cette relation abîmée à l'État, ça se traduit à la fois par le sentiment d'une dépossession des compétences municipales, mais c'est aussi une dépossession du pouvoir politique. Et le pouvoir politique exercé un maire, c'est pas un pouvoir partisan. Le pouvoir politique, c'est au sens propre, c'est-à-dire faire vivre une communauté locale. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément du malaise, c'est aussi ce qui, moi, me semble le plus difficile, et je ne vois pas des évolutions positives pour ce scrutin. C'est la question du statut de l'élu local. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que je ne suis pas un expert juridique des questions du statut de l'élu local. J'ai évoqué tout à l'heure qu'il n'y avait pas nécessairement de demande d'augmentation des indemnités locales. Mais personnellement, j'ai été très surpris de voir que c'est sur ce terrain-là que le ministre en charge, enfin le ministre Le Cornu, a décidé dans son projet de loi Engagement et Proximité, à l'automne dernier, de faire des propositions avec une revalorisation pour l'ensemble des maires et des conseillers municipaux des communes de moins de 1000 habitants. Et ça me surprend beaucoup parce que c'est pas une demande qui était exprimée avant tout. Il y avait plutôt une demande d'accompagnement juridique. Comment accompagner les maires lorsque leur responsabilité juridique, et souvent responsabilité pénale, est engagée. Il s'agissait également de donner satisfaction aux maires sur une meilleure coopération. On parle plus de coopération intercommunale, au fond. On a un système très, très vertical, très hiérarchique qui s'est imposé. Le troisième et dernier point sur lequel je voudrais venir, parce qu'il me semble le plus intéressant et que je vais formuler sous forme d'un paradoxe. Vous avez dit tout à l'heure, Jean-Luc Poutier, que effectivement les maires sont très appréciés des Français. Et oui, enquête après enquête, on voit qu'il y a une forte confiance adressée par les Français à leurs maires. Et dans le même temps, beaucoup de maires sont hésitants à se réengager dans leur action municipale. Alors, c'est là où pour moi la question de la démocratie locale est une grille de lecture prometteuse. Avoir confiance envers un maire, je dirais que la confiance, ça ne s'improvise pas. La confiance, c'est un mélange extrêmement délicat entre à la fois une demande de proximité et une envie de proximité, parce qu'on dit toujours c'est une demande de proximité. Non, il faut que le maire ait envie d'être proche de ses administrés. Donc il doit y avoir une relation interpersonnelle très forte. Donc il faut de la proximité, mais il faut aussi, je dirais, de la compétence. Et c'est peut-être là où je considère qu'il y a aujourd'hui un travail, une réflexion à engager sur le renoncement de maires qui, pour beaucoup d'entre eux, ont appris beaucoup de leur mandat. Certains le déclarent, les nombreux entretiens que j'ai pu avoir avec ces maires, déclare que, bien souvent, quand ils constituent une équipe municipale en campagne sur une liste, ils essayent de faire un peu un travail de division du travail, de rassembler des compétences, parce que le maire, dans une commune de moins de 3500 habitants, il sait qu'il ne pourra pas compter sur des équipes de fonctionnaires territoriaux pour l'aider, l'accompagner dans cette tâche. Donc il est très important d'avoir des femmes et des hommes qui vont l'accompagner, qui seront ses adjoints dans l'équipe municipale, tantôt de l'ancien comptable ou comptable retraité qui va pouvoir s'occuper du budget, de l'instituteur qui pourra lui assurer les correspondances écrites avec un certain nombre de services de l'État. Donc un conseil municipal, c'est effectivement un travail de dentelle pour pouvoir accompagner le maire. Et donc cette question de la compétence des maires, bien souvent, elle est mise à l'épreuve d'une relation, je retombe sur mes pieds, de cette relation abîmée à l'État. C'est-à-dire que un maire qui vit sous multiples injonctions, une inflation de normes, de circulaires, de décrets, il se noie très rapidement dans cet environnement juridique. Eh bien, et c'est ce que j'ai pu observer, beaucoup de maires ont une véritable, et c'est pas péjoratif ce que je vais dire, une véritable frilosité vis-à-vis de l'action publique. Il s'agit de ne pas aller trop loin parce qu'on ne sait pas si le préfet ou le service du préfet vont venir tirer les oreilles en indiquant que vous envisagez la réfection d'un bâtiment, mais vous rendez compte, vous mettez en péril vos finances publiques si on doit les prendre en compte sur les 6 prochaines années. Et donc, ce que j'ai pu observer aujourd'hui, notamment dans des départements, on a véritablement interrompu, on a mis un terme à la figure du maire bâtisseur. Dans l'essentiel de ces communes, et je peux même situer l'étiage à 30 000 communes, à 30 000 habitants, en dessous de 30 000 habitants, la figure du maire bâtisseur, qui était celle qui était à la fois une promesse des lois de décentralisation, qui s'est totalement interrompue. Et on a, à la place, s'est substitué, je dirais, cette figure du maire gestionnaire, qui doit, avec de briques et de brocs souvent, pour les plus petites communes, essayer de s'assurer que pendant 6 ans, les choses vont bien se passer, mais ne dépendra sa capacité à transformer la communauté locale de ses bonnes relations avec les intercommunalités. Donc voilà aujourd'hui la situation politique dans laquelle se trouvent les maires. Je m'arrête peut-être à ce stade parce que je crois que j'ai déjà abusé de mon temps. Merci.
Merci beaucoup Martial Foucault pour cette réflexion sur la notion même de démocratie locale dans le cadre que Monsieur Jean-Robert Massimi avait tracé avec le rappel et la critique, au sens positif du terme, de l'évolution des lois de décentralisation qu'il a menées tout à l'heure. Nous remercions beaucoup nos deux intervenants pour leurs propos et pour ces éclairages. Et nous pouvons maintenant passer, ce qui vous permettra l'un et l'autre de compléter vos interventions, au débat avec la salle. Un micro ou des micros vont circuler. Alors, j'espère qu'on n'aurait pas peur de les empoigner.
Alors, pendant que les questions se préparent dans les têtes, je signale, si vous ne l'aviez pas perçu, qu'à l'entrée sont en vente un certain nombre d'ouvrages, donc plusieurs ouvrages, je crois trois, de Martial Foucault, et puis nous avons ajouté un petit essentiel de la revue Études dont le titre est « Refaire société », donc c'est plus large que la question municipale, mais il y a dans ce petit fascicule un article de Jo Spiegel, qui est le maire de Kingersheim en Alsace et qui a mis en œuvre une expérience intéressante de démocratie locale. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce qui se fait, vous avez une littérature très riche en vente à la sortie. Alors nous prenons comme d'habitude deux ou trois questions. Alors y a-t-il des questions qui se lèvent? Voilà, Brigitte a repéré au milieu.
Est-ce que les revendications des Gilets jaunes et le grand débat qui a suivi ont modifié quelque chose, à la fois dans les candidatures à s'impliquer dans la vie municipale et à la fois dans les projets de législation?
Merci. Alors, est-ce qu'il y a une deuxième question? Oui, au même rang, un petit peu derrière.
Oui, vous avez parlé de dates importantes là pour la forme de la vie locale. Moi, il y en a une que vous avez oubliée, à mon avis, c'est la libération. De Gaulle a fait voter les femmes. Et ma question c'est quel a été le rôle, quel est le rôle des femmes dans la vie locale? Et notamment, on a pas mal de maires femmes. Est-ce que ça change quelque chose dans la vie locale, l'arrivée des femmes?
Troisième question. Merci. Il y a une troisième question.
Vous avez parlé, je crois, des fusions de communes en Allemagne en comparaison avec l'intercommunalité technocratique française. Est-ce qu'il y a, à votre connaissance, des projets en gestation qui permettraient d'aller dans le chemin plutôt allemand, même si c'est politiquement, on l'imagine, très délicat de fusionner des communes?
Voilà, donc trois questions. Gilets jaunes, rôle des femmes dans la démocratie locale et fusion des communes. Attendez, vous appuyez sur le...
Je répondrai une chose, c'est que je ne l'ai pas évoqué parce que le temps court, mais les maires se considèrent comme le premier corps intermédiaire. Or, les Gilets jaunes ont fait apparaître, et le grand débat qui a suivi, ont fait apparaître une crise des corps intermédiaires. Or, les maires se considèrent comme... j'allais dire, les corps intermédiaires institutionnels. Et ils ont mal vécu je parle généralement, évidemment, ils ont mal vécu les gilets jaunes parce que, j'allais dire, c'est un échec pour eux. Normalement, ils sont intermédiaires entre cette population et les pouvoirs de l'État. Et je crois que l'échec que M. Foucault et que moi-même, on a évoqué, cette séparation du local et du technocratique, a abouti, entre autres, aux gilets jaunes. Il y a des raisons plus sociologiques, plus économiques ou autres, mais institutionnellement, les gilets jaunes auraient dû d'abord s'adresser à leur maire. Avant, c'est ce qu'ils auraient fait, enfin l'équivalent des gilets jaunes. Je pense que c'est un échec du monde local, un échec global, mais c'est un échec du monde local. Et d'ailleurs, Monsieur Macron l'a assez bien repris, parce que dans les grands débats où il faisait le tour de France, il associait beaucoup de maires. Et moi, j'ai suivi à la télévision certains de ces grands débats. Ça faisait reprendre confiance dans la démocratie en France, parce que les maires posaient des questions très pertinentes au président de la République. Et on sentait qu'ils étaient impliqués vraiment dans la vie de la société. Mais ça n'a pas eu d'effet énorme.
Alors, prenez Foucault, la suite.
Alors, la suite, si vous m'autorisez, je voudrais dire un mot sur la question gilets jaunes, grand débat. Est-ce que ça a été véritablement le grand débat national, un moment de restauration d'une démocratie locale qui n'avait jamais totalement disparu, mais qui avait de grandes difficultés à faire entendre, ce que j'évoquais tout à l'heure, cette gestion de l'après-crise de 2008. Parce que je crois qu'on n'en est pas sorti. Et vous avez dit tout à l'heure, le terme d'aménagement du territoire, c'est vrai qu'il faudra un jour qu'on s'interroge et que des étudiants travaillent sur l'évolution sémantique de ce portefeuille ministériel. Parce que au fond, on voit que depuis 15 ans, on a utilisé plusieurs termes. Le terme d'attractivité des territoires, après l'aménagement, maintenant c'est la cohésion des territoires. Il y a eu il vient de fusionner autour d'une nouvelle agence, mais le commissariat général à l'égalité des territoires. Bon, vous voyez, ça rejoint l'idée que le maire bâtisseur ne peut plus exister aujourd'hui à travers la disparition du terme d'aménagement du territoire. Mais sur les gilets jaunes, je dirais que dans notre enquête, on a interrogé près de 5000 maires. Très peu d'entre eux témoignent d'un changement de leur regard sur leur pratique de gestion de leur commune. C'est à peine 15%. Pourquoi sont-ils aussi peu nombreux? Tout simplement, eux, ils ont toujours considéré qu'ils étaient à l'écoute, qu'ils étaient disponibles et qu'ils étaient souvent un peu le réceptacle. Et ce qui m'amène à évoquer, avant de répondre aux deux autres questions, je ne les ai pas oubliées, quand on parle d'intercommunalité, imaginez un instant la crise, le mouvement des Gilets jaunes dans une situation où il n'y a plus de maire, mais seulement un président d'intercommunalité. Il faut bien voir que cette intermédiation entre les citoyens et un représentant... Alors oui, on peut nous faire le reproche que 40% des communes européennes sont françaises. Très bien. On peut nous faire le reproche qu'il faudrait rationaliser tout ce territoire, parce qu'en général, quand on rationalise, on fait des économies. Bon, je crois que la Cour des comptes vient d'indiquer que la réforme des régions n'avait pas permis d'obtenir les fameuses économies attendues. Mais donc, crise des gilets jaunes, dans une situation où en moyenne, une intercommunalité, c'est 40 communes. Eh bien, trouver un représentant politique qui ne serait que le président de l'intercommunalité, je crois que c'est se mettre dans une situation de déconsolidation démocratique. Et donc, je pense qu'il faudra réfléchir longuement avant d'envisager une réforme qui viserait à simplement à rationaliser. On n'a pas seulement besoin de rationalisation juridique ou administrative, on a besoin de maintenir un lien démocratique. Et ce qui m'amène à répondre aux deux autres questions. Oui, vous avez raison sur le rôle des femmes. D'ailleurs, elles ont été les premières à expérimenter par une élection municipale en 1945 le droit de vote accordé en avril 44. Donc aujourd'hui, la place des femmes dans à la fois les conseils municipaux, mais aussi, désolé d'insister, mais sur les intercommunalités, je dirais qu'il ne cesse de progresser, mais on part de tellement loin que aujourd'hui nous avons 16% de maires femmes. Vous avez, alors ça augmente hein, dans les conseils municipaux, puisque, alors là un autre paradoxe. Depuis 2014, la loi impose pour les élections municipales la parité pour le scrutin de liste, au-delà de 1000 habitants. Alors que dans les scrutins majoritaires, panachage, en dessous de 1000 habitants, il n'y a pas de loi qui impose une parité sur la constitution des listes. Eh bien aujourd'hui, 19% de femmes sont élus maires dans les communes de moins de 1000 habitants et seulement 13% au-delà de 1000 habitants. Ça veut dire quoi? Là où il y a une loi qui impose la parité, c'est là où on a moins de femmes élues maires. Là où il n'y a pas de loi, il y a plus de femmes élues maires. Alors, comment l'interpréter? Il y a plein d'interprétations. Moi, j'en vois une immédiate. C'est-à-dire, là où il y a des enjeux de pouvoir, malgré une loi qui instaure la parité, les femmes sont écartées du. Et je viens vraiment là cet après-midi de regarder sur la constitution des têtes de liste. Bon, eh bien, on se retrouve encore avec environ 75% des listes où la tête de liste est un homme. Donc ensuite, la parité s'enchaîne, mais c'est qui est tête de liste? Dans l'intercommunalité, c'est 8% de femmes présidentes d'intercommunalité. Donc, je vous réponds de façon factuelle avec des données empiriques. Mais il y a, de mon point de vue, sur la question de la représentation des femmes dans les instances municipales, aujourd'hui, une difficulté à la fois du législateur à trouver le bon cadrage, parce que ce mode de scrutin est, de mon point de vue, sauf si on va vers un scrutin comme pour les élections départementales, où il faut imposer des binômes, mais un binôme pour une municipalité, c'est très curieux. Donc, on doit sortir du cadre juridique pour arriver vers une parité réelle. Dernier point, j'ai oublié de le noter. C'est une question. C'était une question qui était plutôt pour. Mais sauf si vous voulez un avis.
Il existe une loi qui. J'allais dire, fait la synthèse de la décentralisation et de l'intercommunalité qui permet de créer des communes nouvelles, donc par fusion des communes ou par transformation en commune d'une intercommunalité. Alors, je ne sais pas combien de collectivités ou combien d'entités se sont transformées en communes nouvelles, mais j'allais dire c'est la meilleure solution puisque la démocratie est sauve puisque les électeurs éliront directement le conseil municipal de ces communes élargies et j'allais dire la technicité est sauve aussi puisque elles peuvent échapper à une intercommunalité. Le premier maire à avoir utilisé ça avant même la loi, fusion des communes, c'est le maire de Cherbourg, Cazeneuve, qui est devenu ministre de l'Intérieur ensuite. Donc c'est un outil disponible pour les collectivités. Mais je rappelle que toutes ces lois, normalement, sont optionnelles, c'est-à-dire qu'elles ne s'imposent pas aux élus. Il y a un point que je voulais aborder qui n'est pas abordé, enfin, cette soirée, on ne peut pas tout aborder, mais dans le malaise des maires, il y a aussi la fin du cumul des mandats. parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est important. Le maire cumula, entre guillemets, parce que souvent on a une vision assez négative du cumul, mais c'était souvent perçu comme étant positif, parce que le maire cumula, c'était le maire qui accélérait les dossiers, qui pouvait intervenir. Un maire sénateur ou un maire député pouvait d'abord aller plus souvent à Paris, ça a l'air de rien, mais ça compte, et avait un rôle très important d'intermédiaire qu'il n'a plus. Hein. Et je pense que beaucoup de problèmes naîtront du fait que l'Assemblée nationale, les députés, ne seront plus élus locaux, n'auront pas été élus locaux. Hein. Donc, on le voit déjà d'ailleurs sur certains dossiers. Ça, c'est important. Je ne plaide pas pour le cumul des mandats, mais je dis qu'on n'a pas remplacé cette espèce de lien entre local et national qui existait à travers le cumul des mandats.
Voilà, merci. Alors nous avons encore le temps de reprendre une deuxième série de questions. Oui.
Vous avez évoqué, semble-t-il, des communes sans candidat. Que va-t-il s'y passer ?
Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres mains qui se lèvent ? D'autres questions ? Tout est clair ? Bon, mais écoutez, peut-être qui veut répondre à cette question ?
Il y a une procédure technique que je ne connais pas dans le détail, parce que je ne l'ai pas retravaillée, mais qui permet au préfet d'intervenir, puisque en l'absence de maire, c'est le préfet qui est le tuteur, entre guillemets, de la commune. Mais ça devrait plaider en faveur d'un regroupement communal, parce que les communes sans maire ou sans candidat, bon, qui sont pas très très nombreuses, mais qui sont plus nombreuses qu'avant, sont des toutes petites communes. Hein, ailleurs, c'est plutôt le trop-plein, comme aurait dit De Gaulle.
Non, si je peux à la fois, non pas compléter, puisque ce que vous indiquez est effectivement juste. Il faut être prudent sur effectivement ces situations. Alors, c'est une centaine, 104 communes, puisqu'on le sait depuis hier, 4 communes de plus de 1000 habitants et une centaine de moins de 1000 habitants. La situation peut être gérée en deux temps. Le premier temps, il est toujours possible qu'une liste se constitue dans l'entre-deux tours. D'accord ? Et les électeurs seront convoqués à un scrutin d'un tour entre les deux tours. Et puis si à l'issue de cet entre-deux tours, aucune liste ne s'est constituée, n'a été validée, alors effectivement, cela revient dans les mains du préfet qui a une délégation de gestion des affaires courantes. Donc là, on est dans une situation où il ne se passera, je dois dire, très peu de choses dans la vie de cette commune. On va gérer les affaires courantes. Mais je voudrais aussi, c'est un point qui est souvent rappelé au moment des candidatures, on a aussi en France, on a maintenu pour des raisons historiques et presque mémorielles, le cas d'une dizaine de communes, essentiellement toutes dans les Ardennes, où on a des communes avec zéro habitant. Hein? Cette symbolique à travers travail mémoriel, ce sont des communes qui ont aujourd'hui accueillent principalement des cimetières militaires. Voilà, on a un conseil d'administration de par délégation du préfet, en général 4 à 6 personnes qui ont à gérer les affaires courantes qui se maintiennent ou qui se résument à la question de l'entretien des routes communales. Voilà. J'en profite, parce que je ne voudrais pas abuser, mais un élément que je n'ai pas évoqué tout à l'heure sur la perspective de notre démocratie locale en France, et en fait c'est lorsque, M. V, vous avez présenté cet ouvrage de la revue Études, Refaire Société, et cela m'a fait penser à un élément que j'essaye de développer dans l'ouvrage, qui est, en fait, les maires souhaitent avant tout, alors peut-être refaire société, mais surtout réparer la société. Et on l'observe très 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 facilement dans des, pas nécessairement dans des petites communes. Je crois que parfois on exagère le caractère véritable de la commune si elle est inscrite dans un espace rural. On a beaucoup de communes qui sont des communes périurbaines et qui dont les difficultés du maire est semblable à une commune rurale. Et je dirais que derrière refaire ou réparer société, c'est aussi, il faut jamais oublier que aujourd'hui, de mon point de vue, c'est au niveau municipal que la citoyenneté est construite. C'est-à-dire, les maires ont une et je suis toujours surpris qu'on ne mette pas ça en avant, mais les maires sont les artisans de la construction d'une citoyenneté, hein, pour l'ensemble des jeunes qui vont évoluer dans ces communautés locales. Et aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut maintenir à la fois cet idéal démocratique local en coupant ce lien qui me paraît, ce sont pas les seuls acteurs de construction de la citoyenneté, je dis pas cela, mais ils sont un rouage essentiel. Et je crois que ne pas penser simplement la fonction de maire uniquement comme un rapport de démocratie électorale avec les citoyens, c'est pas suffisant. Parce que au fond, je crois que le mouvement des Gilets jaunes et ce qui s'est produit ces dernières, me semble-t-il, montre qu'on arrive à la fin d'un cycle de cette démocratie représentative telle que l'on l'a pensée, telle qu'elle a été construite, qui met, de mon point de vue, beaucoup trop l'accent sur la démocratie électorale. C'est-à-dire un rendez-vous tous les 6 ans pour une élection municipale, et entre-temps, il ne se passe rien. Quand j'ai eu l'occasion de faire une trentaine de réunions locales pendant le grand débat, moi j'ai été frappé de voir des maires, qui étaient souvent d'ailleurs en retrait de ces réunions. Ils mettaient à disposition une salle, ils faisaient communication de l'organisation d'une réunion, mais les citoyens s'en emparaient et décidaient d'inviter qui le voulait. Le maire était présent, toujours en retrait, et beaucoup d'entre eux me disaient, et d'ailleurs le débat continuait surtout à la fin du débat, beaucoup d'entre eux indiquaient, mais j'apprends beaucoup, je ne dis pas que je vais consulter, on n'est pas dans un moment de démocratie consultative, qui est peut-être la manière dont on devrait caractériser le grand débat national. Mais consulter les citoyens, alors vous mentionnez Joe Spiegel dans le Grand Est, mais je ne sais pas si les maires doivent aller vers ce modèle, mais entre un rendez-vous tous les 6 ans et des moments, j'allais dire, de... Je suis très très méfiant sur les vertus professées sur la démocratie participative. En revanche, parce que je crois que ça ne corrige pas le désenchantement démocratique aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui se mobilisent, et donc c'est pas de cela dont on a véritablement besoin. Mais en revanche, combiner, et il faut faire preuve d'expérimentation, je crois qu'il faut accepter, de se tromper. Et je crois que l'idée même de penser que les maires auraient cette pierre philosophale qui leur permet de trouver l'outil qui à la fois maintiendrait ce lien de confiance et ne les autoriserait pas à se tromper est totalement illusoire. Donc il faut accepter de se tromper et inventer des mécanismes qui sont tantôt entre de la participation, de la délibération, de la consultation, mais interrompre ce clair-obscur où la démocratie électorale est quand même le fondement du bon fonctionnement de notre démocratie. Eh bien, je crois que c'est le moment de réviser nos jugements sur cette question. Désolé d'avoir pris trop de temps.
Merci. Est-ce qu'il y a encore une question? Nous avons en principe atteint la fin de la soirée. S'il n'y a pas d'impatience, eh bien nous allons peut-être conclure. Je laisse la parole à Jean-Luc Poutier.
Difficile de conclure. Simplement remercier à nouveau nos deux orateurs pour le caractère très riche de leurs interventions. Et vous rappelez que... ça mérite ça d'être bien souligné, que notre prochain mardi d'éthique publique ne sera pas le premier mardi d'avril, mais le 31 mars. Ce sera le 31 mars parce que pour des raisons liées au calendrier des vacances scolaires, il était quasiment impossible d'organiser ce mardi avec... plus la semaine sainte, les fêtes de Pâques, avant le mois de mai. Donc nous avons décidé de l'anticiper au 31 mars. Je vous rappelle aussi que vous avez à la sortie une table de librairie avec des ouvrages se rapportant à notre débat de ce soir, et des urnes pour que vous puissiez manifester votre contribution à l'organisation de ces débats. Voilà, merci encore, et merci à vous pour votre présence et votre attention. Merci. Très bien.